Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC. Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah, yeah, yeah. Basket time. Final seconds. Bryant for the
win. Pierre Dorian. Basket Time, votre rendez-vous basket tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Parfois aussi, on est en direct sur la chaîne Twitch d'RMC Sport, c'est le cas aujourd'hui. Donc messieurs, vous êtes à la fois en podcast et en direct aujourd'hui. Bonjour Stephen Brun.
Bonjour petit Pierrot.
Bonjour Alex Biggerstaff.
Bonjour Pierre.
Bonjour Frédéric Weiss.
Bonjour.
Donc vous êtes bien habillés, c'est parfait, vous avez tous mis votre plus beau t-shirt pour être en direct sur la chaîne Twitch.
Moi c'est le plus beau.
D'RMC Sport, c'est alors un thème génial, c'est un spécial Victor Wembanyama.
On n'a pas trouvé de surnom encore.
Mais tant mieux.
Wemby.
Ça sert à rien les surnoms. Souviens-toi.
Ça sert à rien. R Jordan, ça sert à rien. Clyde the Glide, Hakeem the Dream, ça sert à rien.
Les Américains s'en chargeront, s'il te plaît.
Pierre,
laisse faire les Américains.
Pierre Magic Dorian.
Ça me plaît. Tu sais, souviens-toi, les experts, les bronzés, non, les indésirables, les bronzés, quoi, c'était affreux, quoi.
Les bronzés font du ski.
Les bronzés font du ski. Alors, voici le programme pour parler de Victor Wembanyama. Pourquoi rend-il fou les Américains? Ça, c'est à vous de me le dire. Ensuite, quelle serait la franchise idéale pour Victor Wembanyama?
C'est un beau débat, ça.
Tu trouves que c'est un beau débat?
Moi, je trouve que c'est un beau débat.
Je pense qu'on va faire 10 minutes là-dessus.
C'est un peu... C'est, on est un peu loin de l'échéance, quand même.
Ah oui.
Bon. Et enfin, vous allez me dire quel est le plus grand talent français avec lequel vous ayez joué. Alors, toi...
Alors, gâché ou pas gâché?
Gâché ou pas gâché, peu importe. Toi, Alex...
J'ai joué avec des sacrés gars le dimanche. Hein.
T'as le droit...
Attention.
T'as le droit de répondre même si t'as pas joué avec le mec. Voilà.
D'accord.
Ok.
Heureusement, sinon il pouvait pas répondre.
Bon,
il aurait pu parler d'un mec à qui il était au collège, qui était très fort. Et
le quiz
va percer, gros.
Le quiz sera d'une difficulté relativement élevée et concernera de près ou de loin, je préfère le préciser, Victor Wembanyama.
Très bien. Ça tombe bien si c'est
peut-être
le thème
pour
du,
toi, ça.
C'est le thème du podcast.
C'est sûr que si on avait fait sur Shaquille O'Neal, ça aurait été bizarre. Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Victor Wembanyama part à la conquête de l'Ouest.
C'est dur, dur être bébé.
J'ai une vision globale des choses.
Wow. Regardez encore une fois, ils ont la possibilité de courir.
Par-dessus. Oh. Mais attendez.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Wow. Wembanyama.
Oh. Et alors, Victor Wembanyama à 45 degrés.
How do you handle those expectations?
I feel like I don't really need any effort to handle those because I expect this from myself.
As a person, he's great. He's a great human being. He's a great kid, and he's very, very talented. And it's hard to know like how high he can go.
Have you seen a player like him before?
Nope.
Ça vous va? Voilà. J'ai une très bonne intuition en plus.
Alors Victor Wembanyama en rockstar à Las Vegas, c'est cette semaine deux matchs d'exhibition de son club face à une équipe de J-League. On vient présenter le produit aux acheteurs américains. Je pense que, alors nous ça peut nous paraître bizarre, je pense que pour eux alors
c'est leur maison témoin.
C'est le quotidien absolu du sport business aux États-Unis. Mais je vous pose cette question, pourquoi rend-il fou les Américains? Victor Wembanyama, d'abord Alex, explique-nous ce que c'est que cette exhibition en pleine saison, enfin en plein début de saison. Les métros partent aux États-Unis disputer deux matchs.
Ouais.
C'est spécial.
C'est assez nouveau. C'est assez nouveau, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Tout simplement parce que maintenant, la NBA est totalement ouverte à l'Europe. Donc, il faut un maximum d'exposition sur les futurs produits de demain, comme tu l'as si bien énoncé. C'est le cas de ces deux matchs d'exhibition qui auront lieu cette semaine entre les Metropolitans et donc la NBA G League Ignite. Qu'est-ce que c'est? C'est une équipe de développement en G-League qui, pour la première fois cette saison, va participer au championnat de G-League. Elle est composée de plusieurs jeunes talents de demain, des fameux prospects qui veulent déjà se mesurer au niveau pro. On le sait que la NBA, depuis plusieurs années maintenant, est en train de s'ouvrir pour proposer des alternatives aux plus jeunes talents par rapport aux championnats universitaires, etc.
Ça se C'est-à-dire que ce sont des gamins qui n'ont plus besoin de passer par l'université, qui joignent cette
Exactement. Cette pas obligés de passer
Ignite.
Par la case universitaire, parce qu'ils ont envie de se mesurer tout simplement à un niveau professionnel. C'est le cas de la G-League, puisqu'on le rappelle, il y a beaucoup de joueurs de G-League qui vont à NBA. Stephen me fait des petites claquettes des doigts, mais oui, ça veut bien dire aussi qu'il y a de l'argent à aller chercher. avec la NBA, de toute façon, tout est...
$500,000 le contrat annuel.
Avec la NBA, tout est une question d'argent, quoi qu'il arrive. Et c'est le cas du match de ce soir et du match de jeudi. Tout simplement parce que ça va être diffusé aussi sur des grandes chaînes aux États-Unis. Pierre, ce match va être diffusé sur ESPN 2.
Ah, c'est un vrai événement.
C'est un méga événement aux États-Unis. Et surtout, les Américains, ils vont enfin pouvoir aussi se délecter de vraies images de Victor Wembanyama, parce qu'ils se plaignaient ces dernières semaines de ne pas avoir d'images bien produites par les caméras françaises. On a pris un sacré coup, un sacré taquet dans les discussions ces derniers temps. Donc là, ça va être l'opportunité. Ils vont pouvoir voir Victor Wembanyama, Pierre, en prime time, parce que ça va être diffusé à 22h Eastern Time.
Ça va exciter les Américains.
Ah, mais ils attendent que ça.
Regarder.
Ils attendent que ça. Les scouts NBA suivent Victor Wembanyama depuis 3 ans. Donc, maintenant, le grand public va commencer à le suivre à partir de ce soir.
Alors, autre chose à expliquer avant de débattre, c'est qu'il fera face à celui qui est présenté comme son concurrent numéro 1 pour être numéro 1 de la draft, justement, l'année prochaine. Est-ce que ça change quelque chose
Il s'appelle
Comme il s'appelle, je ne l'ai pas noté.
Scoot Anderson.
Vroom, vroom. Scoot Anderson.
C'est une voiture, ça.
Piaggio.
Est-ce que ça change?
C'est le plus jeune joueur pro des États-Unis, quand même, de l'histoire des États-Unis, quand même.
Scoot Anderson. Est-ce que ça change beaucoup de choses pour Victor d'être drafté numéro 1 ou numéro 2?
Ah, un petit peu.
En termes de contrat, il y a une différence ou pas forcément?
Il me semble qu'il y a une légère différence. Mais parce que c'est... Ça n'a jamais été fait, Pierrot. C'est toujours bon d'être précurseur et d'être le premier Français à être numéro 1 de la draft. Donc, c'est, pour lui, clairement, il a dit que c'est un objectif. Il veut personne.
Oui, il a dit plus que ça, même.
Oui, il a dit, je veux personne devant moi. Oui, c'est forcément un objectif parce que t'es pionnier, t'es le premier à jamais avoir été numéro 1 à la draft. Donc, il y a une certaine satisfaction personnelle. Et puis, ouais, financièrement, il n'y a pas une énorme différence entre 1 et 2. Mm. Mais c'est plus pour
la gloire.
Pour la hype, pour la gloire, pour le dire, c'est moi le premier.
T'es pas un peu plus peinard, finalement, quand t'es numéro 2?
Pourquoi?
Moins de pression, moins de...
Ah, franchement, un ou deux, trois, t'as beaucoup de pression, quoi qu'il arrive.
J'ai l'impression qu'il y a une vraie différence. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de la merde, hein, Pierrot.
Mais ces mecs-là, ils ont été un peu massacrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième chance. En gros, quand t'es numéro un et que tu t'imposes pas, t'es considéré comme un souillon.
Ouais, mais quand t'es numéro un, t'as la garantie de jouer directement. Parce que si t'es 12-13, tu te retrouves dans des franchises où il y a des mecs devant
alors
toi.
Alors maintenant, qu'est-ce que vous répondez à la question pourquoi est-ce qu'il rend fou les Américains, Steve?
Parce que c'est Kevin Durant avec 10 cm de plus.
C'est Kevin Durant avec 10 cm de plus. C'est comme ça que tu le décrirais aujourd'hui.
C'est comme ça que je le décrirais
aujourd'hui. Il sait tout faire. Il est aussi agile.
Il est à 2m21. L'agilité est proche de Kevin Durant. En fait, c'est un phénomène.
C'est quoi
basket.
Son poste?
Il en a pas. Fais-le jouer, mets-le sur le terrain, sur le parquet.
Moi, j'imagine 3 en 2024. Donc, pour te dire à quel point je l'imagine partout.
Avec l'équipe de France. Parce que tu considères qu'il y a Rudy Gobert et peut-être Jojo Embiid.
En fait, j'ai envie de les faire jouer tous ensemble, effectivement, donc je les décale un petit peu. Donc, je ne dis pas que ce serait hyper facile, mais il y a tellement de talent, il a ce cocktail de qualité physique incroyable.
Après, les équipes
incroyable.
Qui vont jouer petit vont nous passer entre les jambes et puis on pourra plus défendre. Hein.
C'est quand même sympa d'avoir des grands au basket. Hein.
C'est vrai,
même si ça se perd un petit peu de mode.
C'est des mensurations qu'on a rarement vues. 2m21, 2m44 d'envergure. Il n'y a pas un mec en NBA là, sur la saison 2022-2023 qui a autant d'envergure que lui. Offensivement, il fait beaucoup de choses, du tir extérieur, il y a tout. Mais surtout, ce qui fait kiffer les Ricains, c'est que défensivement, c'est au niveau de la dissuasion, du rebond, du contre, il y a du Rudy Gobert chez Victor Wembanyama défensivement.
Parce qu'il a un timing de fou en plus de ses mensurations incroyables.
Il y a du Kevin Durant offensivement. Donc pour eux, tu as le fantasme du joueur ultime qui, ça n'a jamais été fait. Tu as l'impression que si tu fabriques un joueur taille, attribut défensif, attribut offensif.
Sur les jeux vidéo, je l'ai créé, ça marche bien.
Voilà, parce que
ça marche pas trop mal.
C'est Victor Wembanyama. Et puis c'est un mec qui va avoir 3 ans de basket professionnel derrière lui, jouer contre des grands garçons, contre des messieurs, contre des Coupes d'Europe. Donc. Ils estiment que drafté
3 ans, 2 ans plutôt, non? L'année dernière.
Nanterre avant, il a joué des matchs d'Eurocup. Hein.
Ouais, ouais.
Donc ils estiment que drafté Wembanyama en 1, t'as quasiment zéro risque parce qu'il a déjà tout connu.
Physiquement, il n'y a pas un risque quand t'es aussi grand et un peu frêle parce que pour l'instant il n'est pas tanké pour la NBA.
En théorie, oui, c'est vrai qu'il a quand même été souvent blessé, notamment l'année dernière, mais encore une fois, quand t'es numéro 1 de la draft, les mecs vont tout faire.
C'est pas une garantie. Greg Oden, je pense pas qu'il l'ait forcé à se blesser. Hein.
Non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup progressé par rapport à ça. Il connaît son corps de mieux en mieux. Il apprend de plus en plus à le connaître. Il a toute une année où il va jouer qu'un match par semaine, où il pourra se préparer aussi. Donc, honnêtement, moi, je pense que physiquement, il peut arriver prêt. Alors, je ne dis pas qu'il est suffisamment costaud pour jouer en NBA maintenant, mais par contre, dans sa mentalité, il est déjà prêt.
Tu sais ce qui est marrant, c'est que les Américains sont affolés par un mec qui fait 2,21. J'ai regardé les finales de conf l'année dernière. C'était Miami, Boston et Dallas, Golden State.
Il n'y a pas un mec de 2,10.
Il n'y a pas un joueur majeur à plus de 2,10.
Ah ouais.
Mais là, il affole tout le monde.
C'est de moins en moins la mode, en plus. Ouais. C'est assez paradoxal. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'on n'aime pas les grands qui jouent en poste 5. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de s'écarter. Mais c'est vrai qu'un grand qui est capable de shooter à 3 points, de s'écarter, de défendre au loin, parce qu'il est capable de défendre au large aussi sur des switches défensifs, bah forcément, ça les excite plus.
Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les qualités de Wembanyama, Alex ?
Sur ses qualités, je pense qu'on a, on a déjà dit quand même beaucoup de choses. Moi, je voudrais surtout toucher au mythe américain de la NBA. Pourquoi est-ce qu'on fantasme à ce point-là sur ce garçon ? Parce que Fred en parlait, c'est par rapport à la taille. Parmi les plus grandes légendes de la NBA, il y a souvent des mecs qui ont été au-dessus du lot par la taille. On pense à Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain. À chaque fois, c'est une question de génération. Le basket a évolué aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important ? Aujourd'hui, on voit que les grands savent aussi bien jouer que des arrières. C'est le basket moderne. Voilà en quoi représente l'importance de la draft de Victor Wembanyama. Parce que c'est un grand qui est capable de jouer comme un arrière, qui a autant de facilité et qui a le talent d'un arrière. Pourquoi ça fait fantasmer à ce point-là les Ricains ? Parce que quand on regarde sur l'historique de la draft, des grands qui n'ont pas été formatés par le système américain et qui s'imposent dans les premiers choix de la draft, il n'y en a pas des masses.
Mmh.
Ça a toujours fait rêver, mais il n'y en a pas des masses.
Les Jokic et tout ça, ils sont draftés bas.
Ils sont draftés
bas. Oui,
et surtout, à l'époque, c'était pas autant médiatisé, pas en amont. Yao Ming a fait une sacrée carrière et tout, et c'était un ovni. Et derrière, tu regardes, la dernière fois qu'un Européen qui n'est pas passé par le système américain et qui avait des atouts un petit peu à la Victor et tout, il s'est crashé.
C'était qui ?
Numéro 1 de la draft.
Bargnani.
Andrea Bargnani en 2006. Il s'est crashé pour une question d'adaptation au jeu, question d'attente, de pression,
etc. Il serait meilleur aujourd'hui, Bargnani, au NBA.
Sans doute. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait.
Après, il y a une autre question quand même, c'est combien d'années, combien de temps, peut-être en années, est-ce qu'il faut attendre avant d'avoir un joueur prêt ?
Beaucoup.
NBA ready.
Beaucoup.
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 3-4 ans ?
Ouais. Ouais. Après
c'est déjà beaucoup.
Le fantasme, c'est que les franchises estiment que Victor Wembanyama peut t'amener une franchise des bas-fonds de la NBA à tout en haut.
Mais donc, ça veut dire
il appelle joueur générationnel. Donc, évidemment, il pense que d'un seul coup, ça peut matcher, ou quasiment d'un seul coup.
Le dernier mec qui a eu une hype comme ça, c'est LeBron James, où ses matchs à Sainte-Marie, Saint-Vincent, High School étaient diffusés.
Il était un peu plus costaud,
sur la chaîne nationale. Oui, mais c'est pas le même poste, mais je te parle en termes.
Non, mais même physiquement, il était plus prêt.
Médiatique. Il était plus près. Mais après, il n'est pas passé par la fac NCAA, ses matchs de high school étaient diffusés sur la télé nationale. Il a fait la couverture de Slam, parce que là, Victor Wembanyama a fait la couverture de Slam, qui est le plus grand magazine de basket.
Et d'ailleurs, pour en avoir une, ça coûte très cher.
Outre-Atlantique. J'ai l'impression que ce gamin s'accommode très bien du produit marketing qu'il est. Parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, c'est un produit marketing, Victor Wembanyama. Tu l'as écouté parler anglais ? Il a 18 ans.
Il est bluffant.
Donc il est prêt à parler anglais, il est bon avec les médias, il a toujours la petite punchline qui va
c'est
bien.
C'est Mbappé, quoi.
Il est
oui.
prêt.
Oui, oui.
C'est Kylian Mbappé. Et tu lui parles pas d'âge à lui. Donc.
Justement, pour parler des qualités de ce phénomène, on va parler à ses adversaires, puisqu'on est en ligne avec Olivier Bourguin, le DG de Gravelines, qui était le premier adversaire de Boulogne-le-Valois lors du championnat de France, et qui est en direct avec nous dans Basket Time. En direct sur la chaîne Twitch RMC Sport, je vous rappelle aujourd'hui, et bien sûr en podcast sur rmc.fr. Salut Olivier.
Bonjour à vous, bonjour à la team.
Ah, Stephen, il m'a dit je vais te caler un invité et tout, trop bien pour parler de Victor, mais ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il a calé son pote en fait. Dis-le moi, quand tu
t'appelles
Olivier Bourguin, bah, tu me dis j'appelle Olivier Bourguin, pas de soucis.
C'est plus facile d'avoir un mec.
Olivier, il n'osait pas me dire, il me dit je vais t'inviter un mec, tu vas voir, il est top et tout, il parle bien de basket.
Il va pas te caler son ennemi.
Après, il n'y a qu'un pote à qui j'envoie un message à 10h25 pour être prêt à 12h50.
Olivier, on débattait des qualités de Wembanyama. Avec cette question, qu'est-ce qui rend fou les Américains ? Pourquoi rend-il fou les Américains ? Si toi, tu devais le définir en quelques mots pour répondre à cette question, tu dirais quoi ?
Alors moi, je ne sais pas ce qui rend fou les Américains, mais en tout cas, je sais ce qu'en France, et notamment moi, quand je l'ai vu, c'est que je n'ai jamais vu un joueur aussi grand, avec 2m21, 2m44 d'envergure, avec autant de qualité. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui est unidimensionnel. Il peut jouer près du cercle, il tire à 3 points, il fait des fadeaways. Il peut contrer, il fait des passes. En fait, il a cette capacité de changer un match avec tellement de choses différentes que c'est unique. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas vu quelqu'un dans ma vie avec autant de qualité, avec une taille qui est aussi grande et démesurée. Quand on prend, par exemple, Rudy Gobert, on sait pourquoi il est payé. Mais Wembanyama, il a tellement de choses dans techniquement à 18 ans que je peux comprendre que ça rende complètement dingue les Américains. Alors, parce que moi, je voyais entre nous à l'échauffement, il tire à 3 points, il tire à 2 points, il drive, il fait des fadeaways, enfin, il a tout en magasin. Alors que c'est, on dit toujours que les grands, ils ont une maturité technique un peu plus longtemps que la moyenne. Mais lui, il a déjà quasiment tout à 18 ans, c'est phénoménal.
Et Olivier, quand tu l'as joué, vous avez gagné votre premier match, est-ce que toi, sur le côté, tu es supporter de Gravine forcément, mais est-ce qu'il y a des actions qui t'ont fait faire « waouh, c'est un truc de ouf »
Mais moi, je trouve qu'il est, il est en train, enfin, il connaît le basket et il y a une chose qu'on ne dit pas assez pour lui, par rapport à lui, c'est qu'il a un cerveau en plus. C'est que c'est un gamin qui est intelligent, qui est éduqué. Et j'ai l'impression qu'il voit les choses avec, pourtant il a 18 ans, donc il a une expérience qui est quand même somme toute très limitée, mais il voit les choses avant les autres. Et c'est pour ça qu'il a un timing de contre. Alors évidemment, on dit qu'il est 2m21, mais avant tout, c'est un timing le contre. Et il peut, pour moi, il est très mature par rapport à son âge et ce qui est, je veux dire, et par rapport au buzz qui est autour de lui. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner.
Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui pose comme problème en match à un coach sur la rencontre que vous avez jouée lors de la première journée? C'est quoi l'équation à résoudre face à Wembanyama? Est-ce qu'à son âge, il est déjà, je veux dire, le facteur numéro un du match?
Alors, moi, je vais vous dire, contre nous, il met 23 points. Il fait 10 sur 17 à 2 points, 1-6 à 3 points, 10 rebonds. Et j'ai l'impression qu'on a fait un grand match contre lui. Mmh. J'ai l'impression qu'on a réussi à le limiter.
Et vous gagnez.
Et on gagne le match. Mais au-delà de ça, il a un impact. Mais tout à l'heure, je le disais en début d'interview, c'est qu'il a pas. Enfin, je veux dire, il est capable de changer un match avec des tirs à 3 points, avec du fadeaway, avec des contres, avec des passes, avec tellement de choses qu'il est inarrêtable. Parce qu'en fait, aujourd'hui, sur un shooter, on peut essayer de défendre avant, de devenir. On peut travailler sur un shooter. Mais lui, il a tellement de bagages, il a tellement de qualité dans ses mains que c'est compliqué de l'arrêter. Moi, je pense que c'est à un moment donné, c'est même impossible de l'arrêter. C'est lui qui va s'arrêter tout seul. Et aujourd'hui, si je vois un défaut par rapport à lui, c'est déjà le physique, mais surtout, c'est sa sélection de tir. C'est qu'aujourd'hui, si demain, il arrive à pouvoir gérer sa sélection de tir, je pense que ça fait un joueur qui sera inarrêtable.
Alors, il faut gérer sa sélection de tir. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est un truc qu'on n'a pas évoqué.
Ouais, après...
Ça, là, avec la maturité, ça doit venir, non?
Oui, là, le timing des tirs,
ouais, mais sur les possessions. Il force aussi un peu ses shoots. Pourquoi? Parce qu'il veut être NBA ready et il sait que pour aller là-bas, il va falloir prendre des shoots, il va falloir forcer, il va falloir se rater un petit peu.
Il faut aussi montrer qu'il a la mentalité américaine, exactement, comme le dit Fred, en disant oui, je peux croquer. Rappelle-toi du gros débat sur Frank Ntilikina en disant pourquoi il croque pas. Et Frank, aujourd'hui, il se retrouve avec un rôle de défenseur. Il faut qu'il soit.
Mais ça se voit qu'il se force dans sa tête aussi parfois. Parce que parfois, il prend des shoots.
Ah, il se force, il en a pris 23 quand même.
Mais je veux dire, dans sa tête, tu vois qu'il force un petit peu les shoots. Il se dit, allez, je vais le prendre parce qu'il faut que je le prenne.
Il est mis dans une situation à Boulogne où c'est l'option numéro 1 et vas-y, mon grand, fais-toi plaisir. T'as la white card, donc il y a des tirs parfois qu'il devrait pas prendre sur un schéma normal, mais parce que c'est Victor Wembanyama et qu'on l'a mis dans cette situation-là, il s'octroie des trucs. Peut-être que d'autres joueurs, moi je veux pas les jouer, je veux pas jeter la pierre. Après, sur le match de BCM Gravelines, ses stats sont un peu.
Moi, je trouve qu'elles sont trompeuses parce que j'ai fait le match et effectivement, elles sont très trompeuses parce que la pression que tu as, c'est qu'il n'est pas dans le match, qu'il rate les trucs. Et j'ai l'impression qu'il met des paniques quand on les voit beaucoup.
Il fait des trucs de ouf. Hein, il tire, il rate.
Il y a aussi une évidence.
Il est par terre, il reprend la claquette de son tir. En gros, tu dis, ok, d'accord.
Il y a aussi une évidence qui, contre lui, c'est son inexpérience. Et ça ne changera pas. Pour l'instant, il est encore très jeune. L'un de ses problèmes majeurs, c'est qu'il fait souvent beaucoup trop de fautes rapidement. On l'a encore vu face à Pau récemment. Il est capable de revenir après dans le match. Mais le problème, c'est que évidemment, son inexpérience va jouer contre lui. Et je crois que c'est la principale motivation de Vincent Collet de le prendre avec lui au Metropolitan. C'est pour lui dire, on va te faire jouer, tu seras au cœur du jeu, tu vas gagner en expérience, on va te préparer au mieux pour l'NBA.
Merci Olivier Bourguin.
Merci à vous.
Merci.
Bonne saison avec Gravelines. Et un de ces jours, on fera un spécial BCM quand même, non, dans l'émission?
Mais avec grand plaisir.
Ouais, d'accord. Olive, t'es mon pote, mais je suis pas sûr qu'on fasse beaucoup d'audience, hein, quand même.
Merci Olivier. On continue le spécial Wembanyama. Je vous rappelle, Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr. On se pose la question, qui va récupérer le phénomène?
Ah non, c'est qui est trop loin. Wembanyama avec la faute. Victor Wembanyama a eu le déclic, vous l'avez senti.
Well, look, I asked somebody I trust about how good Victor is, and they said, learn how to pronounce his name. He really is that good. The comparison I keep hearing is Giannis.
Oh.
And it's not just the body type, it's also the game.
Ballon récupéré en dessous par Hunter. Oh, ce contre, une fois, ce contre, deux fois. Wembanyama va finir par le crever, ce ballon-là.
We talked a little bit about the perspective, you know, teams that might need a player. We're saying it's not the Kings. We're not saying it's the Kings because they might be in the playoffs, Mark.
Alors, il sera numéro 1 ou numéro 2. Pour l'instant, il est numéro 1, mais sait-on jamais. De toute façon, ça ne va pas trop bouger.
J'ai entendu dans la rédac, il pourrait jouer dans le jardin d'un certain journaliste et oui. Il serait quand même ouais. Numéro 1.
Quelle serait la franchise idéale pour
c'est
lui
faux, c'est pas faux.
Alors,
moi, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression qu'Alexandre n'est pas tout à fait d'accord avec toi.
Je m'enflammerai pas à ce point-là.
Tu penses qu'il peut être.
C'est pas joué. La première place, c'est pas du tout.
C'est pas très grave.
Encore.
C'est pas très
non,
grave.
C'est pas très grave.
Ça change pas grand chose au débat.
Bah après, ça change d'une franchise à une autre.
Alors, on est encore un peu loin de l'échéance, donc impossible d'imaginer.
À 10 mois.
qui sera bien sûr le choix numéro, qui aura le choix numéro 1, mais aussi à quoi ressembleront les franchises au mois de juin 2023. Ceci étant, celles qui sont bien en place, celles qui ont une équipe qui tourne, ne devraient pas bouger trop. Et puis, il y a les derniers de la classe qu'on connaît, hein, les OKC, les Détroit, etc. Alors, je vais vous poser des questions. Peut-être sans parler des franchises directement, est-ce que d'abord, il doit aller dans une franchise où il n'y a pas d'intérieur très fort, où il n'y a pas de grand dominant ?
Non, pas forcément.
Pas forcément ?
Non, après...
Il peut jouer à côté de Jokic, par exemple, je dis n'importe oui. quoi, hein, mais ouais, sans
ouais,
problème.
Ouais, mais il a encore l'avantage de pouvoir se décaler, c'est pas forcément un 5, il peut jouer 4.
J'espère pour Denver qu'ils n'auront pas le choix ouais. 1 ou 2.
Hein. Ils ne seront pas trop placés.
Ça voudra dire qu'il y a un bon problème cette saison.
Non, mais il peut jouer, à côté de Pascal Siakam, mecs comme ça, sans problème.
Oui, sans problème, okay. Ouais, tu le mets partout.
Ensuite, vous pensez qu'il vaut mieux qu'il aille dans une franchise en reconstruction ou dans une équipe qui tourne déjà ?
Reconstruction pour moi.
Reconstruction ?
Pas n'importe quelle reconstruction. Parce qu'il y a quand même des équipes qui sont dans la reconstruction depuis des années et je ne lui souhaite pas du tout d'aller dans cette galère. Moi, j'ai une franchise en tête. Donc,
attends, garde-en sous le coude. Alex, franchise en reconstruction ou déjà bien établie ?
Moi, je pense que peu importe. Je pense que c'est la question du marché.
C'est la question du marché. Ah, oui. Toi, tu vois l'aspect économique
je
numéro 1.
Je préférerais pour Victor qu'il aille dans un plus petit marché.
Parce que moins de pression ?
Moins de pression.
D'accord. Donc, elle
par
est,
rapport à
on
tout
oublie.
Ce qu'il peut générer, lui.
Quand t'es numéro 1 de la draft, si t'es numéro 1, t'arrives au Knicks, mon grand.
Mais dis-moi, s'il est les...
il y a une possibilité que les Lakers soient
les
numéro 1.
Ça marche bien, normalement.
Si les Lakers tank, qui se retrouvent aux Lakers, c'est sympa quand même.
Je suis pas sûr que les LeBron James soient contents de faire une saison à 14 victoires.
Ouais, mais bon, Anthony Davis aussi.
Tu choisis pas toujours. L'an dernier, ils étaient quand même pas bons. Et dernière question. Avant de vous donner plus la parole sur directement la question de la franchise, est-ce qu'il vaut mieux qu'il aille quelque part, on va lui donner les clés très vite ou on va lui laisser le temps
non,
et
faut
l'utiliser
qu'il prenne les clés.
Tout de suite.
Bah, numéro 1 de la draft, il faut qu'il prenne les clés tout de suite. T'as fait 3 ans de basket professionnel, t'arrives dans une équipe qui te prend en numéro 1, ça veut dire qu'ils construisent autour de toi. J'espère qu'il jouera plus de matchs que Zion sur les 3 premières saisons. Mais il faut qu'il ait la white card, qu'il prenne tous les tirs, comme a pu l'avoir un Kate Cunningham avec des 3. Ces mecs-là qui ont été numéro 1 et qui ont tout de suite pris
le... T'es pas d'accord, Alex ?
Si, mais... Il va falloir, c'est un mix des deux. Il va falloir qu'il prenne les clés tout de suite parce qu'on lui souhaite d'atterrir dans un marché où il va être au centre du truc. Mais encore une fois, ça reste un grand de très jeune âge et les grands, Fred peut le dire mieux que quiconque, c'est ceux qui ont le développement le plus lent. Donc il va falloir.
C'est quoi ta réponse à la question ?
Et c'est ceux qui ont le plus besoin des autres pour avoir le ballon,
donc tu ne peux pas avoir les clés tout de suite. Alors selon si je t'écoute.
Non, tu peux avoir les clés tout de suite, mais. Disons qu'il peut y avoir une vraie différence de l'environnement autour de lui qui peut faire peur. Une situation, par exemple, d'une équipe comme Détroit, moi ça ne me ravirait pas trop.
Et Fred, pour répondre à la question, une équipe qui lui donne les clés tout de suite ou pas ?
Ben, en fait, j'ai envie de dire les clés, oui, mais les demi-clés. Les clés partagées. Il faudrait
les clés
une
du
grosse...
studio, les clés, studio au dernier étage.
Les clés d'une partie de la maison, mais pas de tout.
Les clés que quelqu'un
en, en gros, que quelqu'un puisse soit capable d'assumer un petit peu tout ce qui est compliqué, tous les démarches.
Il a les clés, mais quand il rentre de l'école, il y a quand même la nounou.
Exactement. Et ben voilà, une nounou. Il lui faudrait un peu une nounou superstar à côté de lui qui puisse l'épauler un petit peu au début pour que ce soit plus facile.
C'est trop pression.
T'as eu une nounou jusqu'à quel âge, toi, Fred ?
Moi, ben, j'en ai encore.
Bon, alors, dans quelle franchise, quelle serait la franchise idéale selon toi, Fred ?
Alors, moi, je rêve des Spurs.
Des Spurs, bien sûr, moi, avec Greg Popovich.
Moi, je rêve des Spurs. Pourquoi ? Parce que, alors, concrètement, alors, Popovich, on ne sait pas combien de temps il va rester, mais on sait que c'est une franchise qui va être suffisamment stable pour trouver un mec ou une nana qui l'a former lui, Bobovic. Mm-hmm. Donc on va continuer sur du beau basket. Déjà, ensuite,
européen, enfin un peu de culture basket européen,
culture européenne, capable d'être ouvert d'esprit effectivement. Après, il y a cette je pense qu'ils ont fait un peu le ménage aussi pour récupérer les tours de draft, donc ils veulent reconstruire aussi. Mm-hmm. Mais reconstruire pour les Spurs, c'est pas pareil que Détroit par exemple, à mon avis, à mon sens. Et puis après, je me dis qu'il y a Tim Duncan qui peut être là pour lui donner quelques conseils. Je trouve que ça pourrait être pas mal. Le fit me plairait bien.
Petit marché, comme disait
Petit marché en plus.
Alex.
Moi, honnêtement, je pense que c'est
le fit idéal. C'est une bonne idée.
L'espère, c'est intéressant.
Bravo.
Et c'est surtout
pour être agent de Victor.
Ben, j'essaye.
C'est surtout très plausible. Parce que les Spurs sont. Quand tu vois qu'ils trahissent Dejounte Murray, qui était leur meilleur joueur, c'est-à-dire qu'ils estiment que, aussi fort soit Dejounte Murray, c'était pas lui qui allait amener cette franchise tout là-haut.
Et alors, je fais une parenthèse là-dessus.
Ils ont récupéré 3 tours de draft.
Ils trade Murray parce qu'ils estiment qu'il a le profil type du joueur qui va pas fitter avec les Spurs.
Si, ça fit, sauf que c'est pas le joueur ultime qui va tourner tout là-haut et qu'il a une valeur marchande très forte à ce moment-là. Il a 24 ans déjà.
Ils ont fait quoi comme échange ?
Ils ont pris Gallinari, qu'ils ont refourgué à Boston, mais il s'est fait les croiser parce qu'il fallait le contrat de Gallinari, c'était 21 millions. Donc
ils ont récupéré quoi du coup ?
3 premiers choix de draft 2023, protégés par les Hornets en 1996.
Pierre, on l'a pas dit depuis le début de l'émission. Il y a plein de franchises qui ont manœuvré ces derniers mois, dernières années, pour se positionner, parce que la draft 2023, au-delà
est censée être relevée.
Voilà.
Et pour finir sur les Spurs, il y a d'autres équipes qui vont tanker, mais le problème, c'est que OKC tanque depuis pas mal d'années, et qu'à un moment donné, quand tu as Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Josh Giddey, à un moment donné, j'espère que tu vas être meilleur d'année en année et gagner plus de matchs. Les Rockets, ça fait un paquet d'années aussi, j'espère qu'ils vont être meilleurs. San Antonio, mine de rien, ils ont toujours joué le jeu jusqu'au bout, et que s'il y a une année pour tanker, c'est peut-être celle-là, et que ça rappellera des bons souvenirs à Popovich en 97 où
ils ont tanké
sans tanker, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures cette saison-là, et ils récupèrent Tim Duncan. Donc je pense que les Spurs, c'est bien. Après, s'il faut rester sur des franchises qui ont fait briller les Français, Utah Jazz est en pleine reconstruction aussi, avec beaucoup de choix de draft. Donc
Utah.
Beaucoup d'incertitudes, mais
il n'y a plus personne là.
Mais il faut se rendre compte que Victor Wembanyama, il va ni tomber à Golden State, ni tomber aux Clippers, ni tomber à Boston, ni tomber Denver. À Miami, ni Denver. Donc il faut regarder les franchises qui risquent de gagner entre 18 et 25 matchs la saison.
Alex, les Spurs,
les Spurs, je les mettais en numéro 1 parce que le cadre est idéal. Après, tu as d'autres petits marchés qui. Ont aussi cette culture de faire travailler les grands, ou qui ont cette culture d'avoir un public connaisseur de basket qui ne va pas lui en demander trop, même s'ils vont l'accueillir comme un dieu. Donc sur ces potentielles franchises, il y a Indiana qui, moi, je trouve, serait aussi une bonne atmosphère pour lui. Et après, je me posais la question sur...
Alors, rappelle-moi Indiana, parce qu'il y a eu les échanges avec Sacramento, là. C'est quoi maintenant l'équipe ?
Oh bah, ils ont Tyrese Haliburton qui serait
Haliburton
parfait...
qui est leur numéro 1.
Mais Haliburton serait un parfait complément pour un garçon comme Victor, parce que c'est un mec qui est porté sur le jeu, qui est un formidable meneur, qui ne pense pas qu'à sa tronche. Voilà, il y a plusieurs éléments clés dans cet environnement.
Plus Sabonis.
Non, il est parti. Ils ont Goga Bitadze.
Ils ont Bitadze, ouais, c'est fort.
Après, la question, et ça je pense que ça relève aussi du fantasme, mais il y a beaucoup d'Américains qui y pensent. Ok, ici. Qui travaille depuis des années.
Donc ici, le problème, c'est
qu'au bout d'un moment, ils vont commencer par compiler quand même des joueurs intéressants, ce qu'ils ont un peu dans leur base arrière. Est-ce que leur rêve,
mais
au final,
à part Josh Giddey,
non, mais est-ce que le rêve de KC, Pierre, au final, n'est pas de faire un
Holmgren.
Est-ce que ce n'est pas de faire un line-up extraordinaire dans la NBA d'aujourd'hui? Avec Holmgren et Wembanyama.
Alex, moi, j'entends ce que tu dis.
C'est la franchise
on n'est pas sur un mode de jeu. On n'est pas sur un mode de jeu NBA 2K où t'accumules.
Steve, je suis désolé. Ok, si depuis 10 ans, on a l'impression que c'est ça. On a l'impression que c'est NBA 2K.
Bah, c'est pour ça. Pourquoi ça changerait d'un seul coup? Ouais, pourquoi ça changerait d'un seul coup? Donc moi, je lui souhaite vraiment pas atterrir là-bas.
Moi, je lui souhaite pas non plus. Mais j'ai dit que c'est vraiment une possibilité.
Ah oui, bien sûr.
Après, on est d'accord que tout ça, là, vraiment, on spécule et qu'il peut se retrouver à peu près n'importe où. Alors pas dans les franchises. Qui sont censés faire une bonne saison, il y a moins de chances en tout cas, mais il peut se retrouver à Washington, il peut se retrouver à Houston, à Sacramento, on est d'accord, hein?
Ouais.
Chaque équipe a
un pourcentage de boules, c'est comme la loi.
C'est-à-dire que même le champion peut, avec énormément de chance, avoir le choix numéro 1.
Non, je crois que le champion, il n'est pas dans les.
Non, c'est pas. Non, mais Golden State, ils sont 30e choix. Oui. C'est impossible. Ce qui peut arriver, c'est que tu aies une franchise qui mette un jackpot incroyable et que tu aies un trade de dingue qui se produit le soir de la draft.
Ah oui.
Pour aller récupérer le premier spot ou le 2.
Ce qui peut arriver, c'est que les Warriors transfèrent Steph Curry et Klay Thompson à OKC pour récupérer.
Je suis pas sûr qu'ils soient gagnants au final.
On va rester sur les 10 premières franchises qui draftent.
Mais... On retiendra donc au début du mois d'octobre 2022. Les Spurs semblent être la meilleure destination, mais tout ça aura peut-être changé dans 9 mois. On continue sur Victor Wembanyama, place à la partie historique. The commissioner is ready with the pick of the Boston Celtics. I have a trade to announce. The Chicago Bulls have traded the rights to Chris Mim to Cleveland for the rights to Jamal Crawford plus cash. With the 11th pick in the 2000 NBA draft, the Boston Celtics select Jerome Moiso, who played at UCLA and was born in Guadeloupe, West Indies. Qui est ce Chris Mim là qui a été échangé contre Jamal?
Un des plus grands joueurs de l'histoire des Lakers.
C'est le pote de Marceau.
Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est figé un peu, non? Bon, alors vous allez me dire quel est le plus grand talent français avec qui vous ayez joué ou vous ayez côtoyé pour Alex. Alors que ce talent soit gâché ou qu'il est confirmé, peu importe. Hein. Fred, on vient de l'entendre.
Et on vient de l'entendre.
Il a été drafté par Boston en 2000.
Oui.
C'est l'excellent Jerome Moiso.
Exactement, il est drafté en 11. Hein. En 2000, donc moi je connais Jerome Moiso depuis les tournois interrégions en je sais même pas quelle année, tellement il y a longtemps, donc on était gamin quand on s'est affronté la première fois. Dans les années 90, ouais. Donc on était vraiment gamin quand on s'est affronté la première fois. Et quand j'ai vu ce garçon de 2m10 presque faire des dunks en mettant la tête à l'arceau, j'ai commencé à flipper. Concrètement, je me suis dit, c'est incroyable. Le mec était capable de shooter, le mec était capable de dribbler, il était capable d'aller dunker sur n'importe qui. Et là, je me suis dit, voilà, ça va être un match très, très compliqué. Premier ballon que je reçois, j'ai un peu peur, je ne sais pas quoi faire. Boum, un dribble, je vais dunker sur sa tête. Je me dis, c'est quand même bizarre, ce garçon, il est bien plus fort que moi physiquement, et rien du tout. Deuxième, je lui dis, écoute, je vais refaire le même mouvement. Je lui dis, et je vais redunker sur lui. Donc je me dis, quand même, c'est très étrange. Et donc, plusieurs années après, on se retrouve à l'INSEP. Et la même chose, un match, il était complètement flamboyant, il dunkait sur tout le monde, il mettait des comptes, n'importe qui allait sur lui et il se prenait une bâche, vraiment, même les ricains en face. Et le match suivant, il était complètement transparent, des mecs d'1m80 allaient lui dunker dessus, etc. Donc ça, c'était sa vie jusqu'à UCLA, où il fait quand même des bonnes années de fac, il est drafté 11e, encore une fois, avec beaucoup d'espérance. Baron Davis est joué avec lui à l'époque à UCLA. Donc tu te dis, ce mec, il va forcément cartonner. Il y a des gens qui ont même dit que c'était un joueur qui valait 100 millions à l'époque. Alors maintenant, et c'est Jamal Mashburn qui avait dit, 100 millions, maintenant, c'est pas grand-chose pour un joueur, mais 100 millions pour l'époque, c'était énorme. Donc tout le monde misait sur ce joueur qui finalement aura joué un tout petit peu partout, c'est-à-dire à Boston, aux Hornets, à Toronto, aux Nets, aux Cavs.
Et pourquoi il s'est imposé nulle part.
Il s'est imposé nulle part, tout simplement parce que tous ses entraîneurs en NBA ont dit qu'il manquait d'agressivité et manquait de travail. C'est-à-dire et moi, pour l'avoir connu un peu mieux que ça, c'est que parfois il déconnectait complètement aussi. C'est que d'un seul coup, il n'était plus présent du tout. Il se mettait à rêver pendant un match et il n'était plus du tout là. Donc il fait après pas une si mauvaise carrière que ça, parce qu'il continue un peu sur l'Espagne. Il reste jamais très longtemps, malheureusement, parce qu'encore une fois, il déconnecte rapidement. Donc les mecs ne pouvaient pas vraiment se fier à lui. Mais il a été champion d'Europe. Champion d'Espagne, pardon, en 2007. Il a fait une Coupe du Roi en 2008 et une Coupe ULEB en 2008, encore une fois.
Mais le plus grand talent que tu as côtoyé.
C'est un talent incroyable.
En tout cas, dont tu voulais nous parler, parce que tu as quand même joué avec des Antoine Rigaudot.
Ouais, c'est ça. Ça aurait été assez simple de parler d'Antoine Rigaudot, Boris Diaw, Tony Parker, évidemment.
Personnage
mystérieux, mais même dans la vie. Hein. Tu peux lui parler et d'un seul coup, il s'arrête de parler. Mmh. Il est dans son monde complètement. Et pour moi, c'est vraiment un talent gâché parce qu'encore une fois, physiquement, j'avais jamais vu ça.
Un talent gâché, mais qui a quand même fait une carrière.
Il a fait une carrière, mais gâché par rapport à.
Chance-là.
À son potentiel, parce que je te dis, il tournait à 1,5 à Boston sa première année, alors que tout le monde imaginait qu'il allait tout casser. Et voilà, moi je trouve ça un peu dommage.
Stephen, quel est le plus grand talent français avec qui vous ayez joué, monsieur Brun?
Est-ce que vous êtes prêt?
J'ai l'impression que tu vas nous sortir un truc, une dinguerie.
Moi, c'est un vrai talent gâché. Il s'appelle Roger Zaki.
Roger Zaki.
Il est né au Niger. Il fait 2m15. Moi, quand j'arrive à Nancy en 2008, je vois un garçon de 20 ans faire 2m15. sur les sprints, sur les traversées de terrain, aller plus vite que les John Linehan et tous les meneurs de jeu, passer d'arts martiaux.
Donc, jamais entendu parler.
Il mettait la jambe, il touchait le cercle avec sa jambe, tirait à 3 points, 1 mètre de détente. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni-là? Et Jean-Luc Monchaud, le coach de l'époque, Nancy joue en Euroleague premier match contre Barcelone, titulaire Roger Zaki, parce qu'à 2m15 il pensait qu'il allait pouvoir perturber les gens, il avait une vitesse de course, il finissait au alley-oop et tout ça, c'était fantastique. Et malheureusement, si tu n'en as jamais entendu parler, eh ben, c'est que mon ami Roger, il avait quelques carences, notamment dans la tête. Roger, c'était pas un bourreau de travail, les nuits de la place Stanislas, il n'avait plus aucun secret pour lui.
Elles sont dangereuses, les nuits de la Stan.
Et c'était pas le dernier pour envoyer 2-3 giflettes en soirée. À la suite de sa carrière, malheureusement, eh ben, c'est de la probé à Boulogne, surtout dans le Nord, à Denain, le Portel Lille. Aujourd'hui, il joue en pré-national à Saint-Martin-les-Boulogne. Il a 34 ans. Donc, c'est pour moi un vrai, vrai talent gâché. Et par contre, au niveau de la bagarre, il faut que je te raconte une anecdote fantastique sur Roger Zaki, Pierrot. Un jour, j'étais en boîte de nuit, place Stanislas, avec mon ami TJ Parker, coach de l'appel. On était avec Roger Zaki. Et donc, on buvait quelques canons. Et puis, ces garçons-là disparaissent de la soirée. Donc, les deux disparaissent de la soirée. Donc, moi, je continue mon aventure, mon petit bonhomme de chemin dans la boîte de nuit. Et tout d'un coup, on me dit, Steph, faut que tu descendes. Il y a un problème sur la place Stanislas. T'as déjà été à Nancy?
Ouais, mais il y a bien longtemps. Oui, je vois.
Et donc, là, je descends de la boîte de nuit. Je descends les escaliers. Et là, je vois une scène de film. Game of Thrones, en fait. Je vois Roger Zaki.
En train de déboîter tout le monde.
Se battre contre eux. Allez, je vais pas faire le Marseillais. 75 forains, parce qu'il y avait la fête foraine.
Et ça, c'est pas Marseillais, 75.
Je te jure que c'est pas Marseillais.
Incroyable.
J'ai vu Roger Zaki se mettre dos au mur, bonne tactique, parce que les mecs peuvent pas venir par derrière. Dos au mur, torse nu, les mecs approchés, plac, coup de pied, plac, il a dézingué 75 forains en 10 minutes, je te le jure, Pierrot. Et j'ai vu mon ami TJ aussi. Alors lui, il en a pas dézingué, j'ai vu dédicace à TJ.
Il coachait.
À droite, à gauche. J'ai vu TJ prendre une petite balayette en live par un forain, s'éclater la tête sur les pavés. Pierrot, je te jure que cette histoire, elle est véridique. Il était 2h45 du matin.
Plein d'alcool, toi, non ? T'as pas un peu des souvenirs un peu...
Non. Bah, j'étais sûrement plein d'alcool, mais cette scène, elle a eu lieu. Et je te jure que... Voilà,
ça t'a fait redescendre.
Ça m'a fait redescendre. Et donc, j'ai Roger Zaki, 2m15, franchement, un phénomène titulaire en Euroleague face au Grand Barça. Et aujourd'hui, qui joue en prénat à Saint-Martin-les-Boulogne.
Roger Zaki, très bien. Et je le note. Je ne connaissais pas ce jeune homme. À toi, Alex.
Bah, du coup, comme j'ai pas joué avec aucun talent ni quoi que ce soit, je vais être porte-parole du public qui nous écoute, puisque je vais déclarer ma flamme au 21e choix de la draft 2003, parce que pour moi, il représente le plus grand talent français à avoir foulé les parquets NBA.
C'est Pierre Dorion.
Carrément.
Et ce n'est pas Tony Parker. C'est Boris.
C'est Boris, ça, merci. C'est j'allais Boris dire, il y a bien qui a me parlé soit de Boris, soit de Tony.
Oui, je suis obligé de parler de Boris, c'est qui n'a jamais eu sa chance à Atlanta, qui a eu besoin d'aller un petit peu plus au sud, comme à l'époque en France, où il s'est révélé avec Ortez. Et aux États-Unis, c'est Phoenix, avec notamment San Antonio, qui vont lui permettre de montrer à la Terre entière, et puis surtout à la planète NBA, que ce garçon-là, peut-être parfois en surpoids, peut-être parfois un petit peu mou, bah en fait, il a du talent plein les mains, il a du talent, il a du basket, et il aura des titres, sixième homme, on rappelle, oui, sixième homme et MIP, notamment Boris Diaw, qui, voilà, je me suis posé la question, parce qu'il y avait le thème talent gâché ou pas, je me suis dit, si Boris Diaw avait eu l'éthique de travail de Tony Parker, qu'est-ce qui serait passé?
Il aurait été malheureux.
Non, mais après, voilà.
C'est
exactement la réponse que je me suis dit.
Il y a un mec pour qui il n'y a rien à regretter, c'est bien lui. Quand il est allé au plus haut,
ça n'aurait pas été Boris Diaw.
Il a kiffé toute sa vie, toute sa carrière.
C'est pas mal.
Bah oui, franchement.
Voilà, c'est juste ça. Moi, pour moi, c'est juste l'amour du basket. Mais pas besoin de changer quoi que ce soit.
Pourquoi tu parles d'éthique de travail? C'est pas un branleur, Boris Diaw.
C'était pas le plus gros bosseur non plus.
Oui, mais il n'y avait pas besoin.
Mais il n'y avait pas besoin, parce qu'il a du talent plein les mains.
Franchement, pour l'avoir côtoyé en équipe de France, c'était pas celui qui bossait le moins non plus.
Non, mais je suis pas en train de dire que c'était... Je suis pas en train de dire que c'est un feignant, je viens de comparer à Tony Parker, les gars.
Ah oui, mais oui.
Ah oui, d'accord.
C'est pas Babak.
Non, mais tu fais bien de préciser.
Pas dit.
Non, tu fais bien de préciser.
Après, Babak, il y a toujours ce mythe, mais qui est pour moi impossible à... qui est infondé, c'est ce mythe de s'il avait été égoïste. Mais s'il avait été égoïste, c'est pas Babak en fait. Babak, c'est la qualité de passe, faire plaisir aux autres. Combien de fois j'ai vu Boris en NBA avoir des lay-ups tout fait comme ça, mettre des dunks, non, passe, extra passe. Des fois, il se faisait disputer par ses coachs. Il se faisait changement, tu tires. Mais
il se faisait carrément disputer.
Disputer en guirlandais par
peut-être
ses coachs.
Mike D'Antoni et Greg Popovich l'auraient pas autant kiffé s'il avait été individualiste.
Parce que Babak prenait plus de plaisir à faire briller un copain qui était encore plus seul que lui que d'inscrire.
J'ai toujours entendu dire, dès ses premières années, qu'il sait tout faire.
Il sait tout faire.
C'est bah. Ça, Boris.
Il sait tout faire.
C'est, ouais. c'est le seul mec qui a joué 5 postes de basket. Hein. Meneur ça, de jeu à Pau et pivot à Boulogne-le-Valois.
L'amour du public français pour Barak se résume à cette question-là. Toute sa vie, on a essayé de le changer ou de le modifier, etc. Il est resté lui-même et il est resté.
Et sans se prendre la tête.
Hein. Un des plus grands joueurs du basket.
Fantastique en finale NBA contre les LeBron James avec les Spurs.
On finit avec le quiz. Oh, j'ai pas trop coupé les cheveux en 4. C'est parti là en premier, c'est parti chez
Sting. Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en
et
premier.
Et là, t'es après ou pas?
Je vais tout arracher. Ah, je l'ai. C'est un mec qui... C'est... Enes Kanter.
Non, pour le bonnet d'âne. I en...
Ouais.
Ouais.
Attends. Ouais.
Daniel Ena Cornflakes.
Daniel Ena Cornflakes.
Et après je vois un demi.
Come on Steph, it's a big mistake. Ousmane Dembélé.
C'était très long. Oui. C'était plus long que le quiz qui arrive parce que là j'ai pas de questions à points multiples donc.
Charade.
Six questions, 6 points, pas de charade.
Là, charade, ah ouais, t'as bâclé le truc.
Non, pas bâclé mais différent, un peu différent
Pierre
avec
Pierre Bâclé.
Avec quelques questions difficiles. Là. Du coup, je vous en ai rajouté des faciles et on va commencer par là.
On commence par les faciles.
Ouais. Wen Banyama, pressenti numéro 1 de la draft 2023. Mais rappelez-moi, qui est numéro 1 de la draft 2022?
Paolo Banchero.
Paolo Banchero, Orlando Magic, américano-italien. Oh. Italo-américain.
Qui va jouer normalement pour l'équipe.
Pour l'Italie, donc ouais. Italo-américain.
Ouais. Good player.
Pretty good player, Piero.
Could be a good player.
Oui.
Yes. Et en 2021, c'était qui le numéro 1 de la draft?
Kate Cunningham.
Kate Cunningham, exactement. Kate Cunningham.
Des 3 Pistons.
On attend peut-être une grosse saison de Kate Cunningham.
Ouais, mais il fait une première saison correct. Il a eu du mal les 2 premiers mois, mais après, il a été solide hein, quand même.
Bon joueur.
Oui,
bon joueur.
Très solide.
Des 3, ça vaut quoi cette saison? On ne sait pas, personne ne sait.
Tu vas pas regarder les matchs.
Tu vas pas regarder les matchs, Pierrot.
Alors, qui a déclaré à propos de Victor Wembanyama la chose la plus impressionnante?
Tony Parker.
C'est qu'il est très humble.
Vincent Collet.
Non, c'est pas Vincent Collet.
Pascal Donadieu.
Pas Pascal Donadieu.
TJ Parker.
C'est pas TJ Parker. Tu peux y aller, ils jouent pas les autres. Hein. T'es tranquille, tu peux prendre ton temps, Stephen.
Gaëtan Müller,
non.
Norris Cole.
Tony Parker.
Là où t'étais le plus proche, c'est quand tu as dit Vincent Collet.
Sacha Giffa.
C'est pas Sacha.
Jean-Paul Besson.
Laurent Forest.
Hugo Besson.
Hugo Besson, on se rapproche dans la.
Jean-Philippe Besson. Tremont Waters.
Voilà. Écoutez les indices. Faites quelque chose, écoutez les indices.
J'ai envoyé 250 noms. C'est ça, c'est Tremont Waters.
C'est Tremont Waters, son coéquipier
son meneur, ouais.
Au métro et ancien joueur de Boston.
Ouais.
Et des Raptors et des
Puerto Rican.
Wizards. Donc.
Et des Puerto
Rican. Je crois qu'il joue un
oui, Puerto Rican. L'enchaînement était fou.
Donc ça fait 2 points pour Steph. Alex, t'étais hyper bien parti. Là, t'as été éteint un peu comme Jérôme Moïseau.
C'est moi qui prends alors qu'il a 0.
Mais parce que toi, t'as fait une Jérôme Moïseau du talent et tout, crack, premier point facile et après, extinction des feux.
Je fais jouer les autres.
Alors que Fred ne nous promet pas grand-chose.
Et il donne rien.
Comme ça, on n'est pas déçus. Je vous donne les clubs d'un joueur.
Oui,
je
dans, l'ordre, dans l'ordre
dans l'ordre. Je vous donne le nom et le prénom. Et vous devinez de qui il s'agit.
Le nom et le prénom.
Joueur. Le nom et le prénom du joueur. Je vous demande le nom et le prénom du joueur. C'est simple. Hein.
Ah, d'accord. Bah ouais, on a compris.
Alors, ça va aller vite, hein. Parce qu'il n'y a que 2 clubs.
Ah oui.
U15 de Nanterre.
Victor Wembanyama.
U18 de Lasvel. C'est pas Victor Wembanyama.
C'est pas Sidi.
Mathieu Strazel.
Non.
C'était Rizacher. Zachary Rizacher.
Il vient de changer. Hein.
C'est le frère de Victor Wembanyama.
Oui, c'est son frère.
C'est ça, bah, c'est bon alors. C'est la bonne réponse. Edgar.
Ah, presque.
Edouard.
Oscar. Oscar Wembanyama. Je te l'accorde parce que le frère de Victor Wembanyama.
Ah, Oscar, c'est comme ton fils Topion.
Exactement. Je pense que c'est un prénom de basketteur.
Ah, aïe.
Oscar Wembanyama, un mot quand
en
même.
En fait, il a fait l'inverse de son frère.
Alors, U15 Nanterre, U18 Asvel est déjà attendu comme
un joueur impact. Laisse-nous Victor déjà. On va
non,
mais
pas.
Plus petit, pas tout à fait, pas tout à fait
pas
le même,
la même,
même
chose.
Style, hein
non, pas il du me tout, semble, si c'est lui, Pierrot, il me semble qu'il était très bon au hand, ce garçon. Il a visité les infrastructures de Barcelone et du PSG hand. Et tout d'un coup, un jour, il a essayé le basket et il était très bon.
C'est exactement lui.
Donc 15 ans, à 15 ans, on peut déjà percevoir quelque chose ou c'est...
Ah oui, Pierrot, ouais. Bien sûr.
Donc,
il a quel âge ton fils?
Non, non, il a 11 ans. Ah, et...
c'est pour ça que tu perçois rien. À partir de 12-13, par contre, inquiète-toi, Pierrot.
Le pauvre. Non, non, mais Oscar Wembanyama, on peut en dire un mot ou on l'a déjà assez vu jouer?
Voilà, je vais pas t'inventer des trucs.
Ok, alors on avance, 3-1. Il reste que deux questions, donc messieurs, il faut y aller là. Alors, lors de la Coupe du Monde masculine de basket moins de 19 en 2021, Wembanyama, médaille d'argent avec l'équipe de France battue.
Les USA. Chettlegram.
83-81.
Chettlegram.
Qui est MVP de la compétition?
Chettlegram.
C'est non. Chet Holmgren et c'est Alexis Ladi en premier. Oui,
what?
Absolument.
Yes!
Yes, yes. Alors, de pas grand chose, c'est vrai.
Après, Pierrot, je vais être très honnête avec toi. Par respect pour la préparation du quiz, je laisse l'énoncé. Après, je réponds. Tu vois ce que je veux dire?
Ça s'est vu sur les 250 membres.
C'est une question de stratégie après.
Ah, non, c'est une question de respect.
Vous avez dit tous les deux quasiment en même temps Chet Holmgren. Mais c'est Alex qui est parti premier.
Sur Twitch, ils ont le ralenti.
Donc toi, tu m'as même pas entendu, moi, du coup.
Tu l'as dit après, non?
Ouais. Il a dit Mathieu Strazel. Il attend Mathieu Strazel.
Mais non, j'ai dit avant la fin de.
Donc il reste une question. J'en aurai pas de. J'ai pas de questions subsidiaires. Hein, donc on pourra pas vous départager tous les deux.
On fait une question à deux points.
Comme ça, il n'y a pas d'égalité. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Question à deux points. Question à deux points. Alors, tu as évoqué tout à l'heure.
Qui?
Le magazine Slam.
Ouais.
Donc, qui consacre la une à Victor Wembanyama.
Quel autre
Mais
français?
Quel magazine a fait sa une sur LeBron James avec l'expression The Chosen One?
Slam.
C'est pas Slam,
non,
justement.
C'est ESPN.
C'est ESPN.
Sports Illustrated.
C'est Sports Illustrated, comme tu dis.
C'est ça, non?
C'est ça, exactement. Et alors, il y a une histoire, parce qu'en fait, il y a un enjeu incroyable. Il y a une vraie histoire. C'est-à-dire que Slam avait fait un papier sur LeBron James sans consacrer sa une.
Oula.
Et donc c'est resté comme le Chosen One grâce à Sports Illustrated et Slam l'a gardé.
C'est pour ça que Slam ils vont faire des unes sur Victor Wembanyama maintenant.
Et là ils font
peut-être que Oscar fera la une de
peut-être Oscar Wembanyama. Oui, peut-être. Et voilà, donc la une qui est, c'est quoi le titre, vous n'en avez pas encore entendu parler, point d'interrogation.
Exactement,
c'est ça, en anglais. Ça donne
Have you ever heard about Victor Wembanyama 7.4?
C'est le début du storytelling.
Sur Victor Wembanyama, c'est Steve qui remporte le quiz à la semaine prochaine.
Salut Pierrot.
RMC Basket Time.